Donc bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien? Ouais. Ok. Alors nous sommes le 12 février et dans quelques jours nous célébrerons la... Qu'est-ce qu'on célébrera? La Saint-Valentin. La fête de l'amour. Alors messieurs, n'oubliez pas de réserver une table au restaurant. C'est commercial, ouais, la bonne excuse, ouais. Ouais. Sors ça Roxane, on verra ça. Ouais. Et j'aimerais saisir cette occasion, la Saint-Valentin, pour aborder un texte qui, lui aussi, met l'amour et la passion à l'honneur. Et quoi de mieux que le texte des Cantiques pour cela. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles au livre des Cantiques, au chapitre 7, et nous lirons les versets 2 à 14. Je commence la lecture. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince. Les contours de tes hanches sont comme des ornements, œuvre des mains d'un artiste. Ton bassin est une coupe arrondie, où le vin parfumé ne manque pas. Ton ventre est un tas de blé entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Batrabim. Ton nez est comme la tour du Liban, qui monte la garde face à Damas. Ta tête se dresse aussi fièrement que le Carmel, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est prisonnier de boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier, et tes seins à des grappes. Je me dis, je veux monter sur le palmier pour attraper ces grappes. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ton palais comme un vin excellent. Il coule aisément pour mon bien-aimé, et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé, et son désir se porte vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans la campagne pour passer la nuit au village. Dès le matin, nous irons aux vignes pour voir si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores diffusent leur parfum. À nos portes se trouvent tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Et là, je pense que vous vous demandez qu'est-ce qu'il va pouvoir dire avec un texte comme ça. Ouais. C'est pour ça qu'on va prier, je pense que ça va être utile. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous adresses, cette parole qui nous connaît parfaitement, qui ne nie pas ce que nous sommes, cette parole qui nous permet de vivre tous les aspects de notre vie, de les vivre conformément à ce que tu souhaites, de vivre une vie digne devant toi, Seigneur. Aussi, nous avons besoin de ton esprit pour nous permettre d'entendre cette parole et qu'elle produise tes fruits en nous. Amen. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire quelques mots sur la prédication qui va suivre. Vous le savez, le Cantique des Cantiques est un texte qui célèbre l'amour entre un homme et une femme. Et il le fait parfois de manière très explicite. Et en ce qui me concerne, je ne suis ni particulièrement romantique, ma femme confirmera, ni particulièrement à l'aise, je reconnais, à l'idée de parler de ce sujet en public. Aussi, j'en fais appel à votre indulgence ce matin. Eh bien, je m'efforce d'aborder la parole avec le respect qui lui est dû. Je m'excuse par avance si mes propos vous mettent un peu mal à l'aise. C'est évidemment pas mon intention. J'en ai vu d'ailleurs qui était un peu rouge là. Ah non, c'est le ski. C'est le ski d'hier. Alors, ce qui est formidable avec la Bible, c'est qu'elle ne nie pas notre humanité. Elle nous rencontre dans notre humanité. Elle nous dépeint tel que nous sommes. Alors, lorsqu'on aborde le texte du Cantique des Cantiques, un point fondamental, c'est de se poser cette question, c'est comment interpréter ce texte. Et dans l'histoire de l'interprétation, on a différentes solutions. On a ce qu'on appelle l'interprétation allégorique. C'est la compréhension où le texte est interprété comme, la relation d'amour entre Dieu et son peuple. Si je posais la question dans l'église ce matin, comment interpréter le Cantique des Cantiques, je suppose que la plupart d'entre nous répondraient, mais c'est l'histoire d'amour entre Dieu et son peuple, entre Christ et son église, évidemment. Et d'un autre côté, nous avons une interprétation qui est plus littérale, qui comprend le texte comme une célébration de l'amour, y compris sur le plan sexuel, le point de l'amour sur, entre un homme et une femme. Et cette dernière approche me paraît plus naturelle et plus proche du sens du texte, et c'est elle qui doit être privilégiée. Elle permet d'éviter des erreurs d'interprétation ou peut-être des interprétations trop arbitraires. Je pense par exemple à cette ancienne interprétation de Cyrielle d'Alexandrie. Donc je le situe, c'est 4-5e siècle. Cyrielle d'Alexandrie donne au verset « Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins ». Il donne le sens suivant. Pour lui, les seins symbolisent l'Ancien et le Nouveau Testament, et le sachet de myrrhe, le Christ qui repose entre les deux testaments. On a d'autres interprétations qui voient dans la description des courbes féminines du Cantique des Cantiques une description de la géographie d'Israël. Alors, loin de moi l'idée de tourner cette tradition à la dérision. Mais clairement, lorsqu'on lit le Cantique des Cantiques, ce n'est pas ce qui saute aux yeux, il me semble. Alors, on a bon nombre d'exégètes contemporains interprètent le Cantique des Cantiques comme étant à la fois sexuel et sacré. Les deux doivent être maintenus ensemble pour que le texte garde son sens. Si on l'interprète seulement dans sa dimension sexuelle, le texte devient simplement ce que certains interprètes ont appelé un simple manuel de sexualité canonique, un simple poème érotique finalement, qui pourrait être compris de façon malsaine et devenir une simple chanson paillarde. L'amour y serait sali. Et ce n'est pas ce que nous dit le Cantique des Cantiques. Mais, d'un autre côté, si l'on transpose un message qui est clairement érotique au domaine spirituel, on tombe dans l'allégorie. Et on prend le risque de tordre le texte et de perdre son message. Alors, le Cantique des Cantiques nous présente la relation entre un homme et une femme, une relation qui inclut la sexualité, et la sexualité n'est pas décrite comme mauvaise en elle-même, et elle n'a pas besoin d'être blanchie pour être théologique. Le Cantique des Cantiques dresse un portrait juste et lucide de notre humanité. Après tout, c'est bien l'amour que nous aspirons pour combler nos vies. Un amour, nous dit le Cantique des Cantiques, qui est semblable à un feu que des fleuves ne peuvent éteindre. Un amour qui est fort, fort comme la mort. Et il me semble que la célébration de l'amour et de la sexualité entre un homme et une femme ont toute leur place et toute leur légitimité dans la plus belle des histoires d'amour, celle entre Dieu et les hommes. Je vous propose de rentrer davantage dans le texte maintenant. Dans notre passage, on voit le bien-aimé qui décrit le corps de sa bien-aimée avec beaucoup d'admiration. Il est captivé par elle. Il la décrit avec énormément de passion. Tout en elle est incroyable, magnifique. Tout en elle est sujet de désir. Et il la dépeint littéralement de la tête aux pieds. Et tout y passe. Il commence par les pieds, il remonte aux cuisses, puis à la partie la plus intime du bassin, puis le ventre, la poitrine, avant d'arriver au cou, aux yeux, au nez, à la tête et aux cheveux. Et ailleurs dans le livre, on trouve d'autres passages où c'est la femme qui va décrire l'homme sur le plan physique en utilisant aussi des mots bien choisis. Alors peut-être que vous n'êtes pas particulièrement à l'aise avec la poésie. C'est mon cas et je dois reconnaître que mes années passées dans les travaux publics ne m'ont pas forcément éveillé à la poésie lyrique. Mais lorsqu'on s'attarde sur le texte, qu'on étudie les mots utilisés, on constate que ce ne sont pas des mots crus, ce n'est pas un vocabulaire vulgaire qui est utilisé. Ce qui se dégage du texte, c'est beaucoup de sensibilité et beaucoup d'amour qui se dégage entre l'homme et la femme dans ce texte. Le corps de la bien-aimée est présenté comme l'œuvre des mains d'un artiste. Son cou est d'ivoire, une matière précieuse. Ses yeux renvoient à un lieu exotique, rafraîchissant et calme. Alors messieurs, pour la Saint-Valentin, vous serez peut-être tentés vous aussi de vous inspirer du Cantique des Cantiques et de rédiger un poème à madame. Excellente idée. Alors je me permets peut-être une petite suggestion. Évitez peut-être les formules du type « Ton ventre est comme un tas de blé ». Ou ailleurs, on trouve « Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent du lavoir. Chacune d'elles a sa jumelle, aucune d'elles n'est seule. » Pas sûr que ça passe. Moi, je m'y risquerai pas, en tout cas. Les normes de beauté ont un peu changé. Et puis, on a à peu près toutes nos dents aujourd'hui, en général. Hein. Par contre, cette description, elle nous invite à nous attarder sur l'autre, à prendre le temps de nous perdre dans ses yeux, à le regarder et à lui dire ce qui nous plaît en lui, ce que nous aimons chez lui. Le verset 6 nous dit « Les cheveux de ta tête sont comme la pourpre, un roi est prisonnier de boucles. » Ce verset marque en quelque sorte une transition. On passe, on voit les effets que produit cette admiration. On passe de la description à la pratique. Et la suite de notre message évoque clairement le désir que les conjoints se portent l'un à l'autre, mais aussi la consommation de ce désir qui passe par l'union sexuelle. Et c'est une liberté forte qui se dégage de ces versets. Alors, il ne me semble pas nécessaire d'en faire une exégèse détaillée. C'est surprenant ce qu'on y trouve. Mais l'on perçoit clairement la dimension érotique de ce passage. Et elle est décrite de façon très, très positive. Et pourtant, dans ce passage, dans son ensemble, il ne conçoit pas la sexualité comme une consommation égoïste. Il ne la réduit pas à une simple satisfaction de pulsion. Au contraire, on l'a vu, le poème fait ressortir beaucoup de sensibilité. De ce poème se dégage une relation qui est marquée par un profond amour et un véritable respect. Le fondement de cette intimité ne se situe pas dans l'instinct, mais dans un amour intense entre les conjoints, dans l'admiration que les époux se portent et dans le don mutuel. C'est ce qu'on lit, « Viens, viens mon amour, viens aux vignes, là je te donnerai mon amour. » Alors il s'agit bien d'une célébration, de la célébration de l'amour, un amour qui inclut la sexualité, mais qui ne se réduit pas à la sexualité. On peut alors se poser la question de pourquoi finalement la Bible insiste sur ce point-là de notre humanité. Bien souvent, ce sont les meilleures choses que nous avons tendance à gâcher. On les transforme en péché. Le vin, l'argent, la sexualité, Dieu nous donne des choses merveilleuses et nous avons tendance à les gâcher. Et le Cantique des Cantiques, lui, nous rappelle que la sexualité, dans le cadre du mariage qui est largement supposé dans le Cantique des Cantiques, est un don de Dieu et qu'elle est bonne. Et cela nous permet d'éviter deux écueils concernant la sexualité. D'abord, le texte ne conçoit pas la sexualité comme une fin en soi, comme un aboutissement. Et je ne vous apprends rien, nous vivons dans une société qui est hyper sexualisée. L'idée qui en ressort, c'est qu'une vie qui ne serait pas sexuellement stimulante n'aurait pas d'intérêt, et dans certains cas, pour certains, pas de sens. Peu importe sa forme, hétérosexuelle, homosexuelle, extra-conjugale, et j'en passe encore, la sexualité se doit d'être intense et performante. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Michel Onfray, ce philosophe médiatisé que vous connaissez peut-être, dépeint, je trouve, avec beaucoup de justesse la pensée de nos contemporains. Et lui parle d'une transe du plaisir. Il évoque un érotisme solaire. Et je cite, il plaide en faveur d'une sexualité sans l'amour qui va avec. Et il prône une fidélité entre soi et soi. Beaucoup de nos contemporains, je crois, cherchent à remplir le vide qui est en eux au travers de la sexualité. Et ça, ce n'est clairement pas le message, ce n'est clairement pas ce que nous dit le Cantique des Cantiques. D'un autre côté, l'autre erreur serait de considérer la sexualité comme mauvaise, comme suspecte, et ce, même dans le cadre du mariage. J'en reviens encore à Michel Onfray, qui nous dit cette fois-ci, il nous dit que le christianisme propage, je cite, « la haine du monde et de ce qui fait son intérêt, la vie, l'amour, le désir, le plaisir, les sensations, le corps, la chair, la jubilation, la liberté. » Il me semble, je crois, qu'on ne peut pas lui donner complètement tort. Il faut reconnaître que l'Église a une part de responsabilité dans cette et a largement contribué à cette pensée. Le Cantique des Cantiques nous indique quel est le juste positionnement, notre juste positionnement vis-à-vis de la sexualité. Comme l'indique un commentateur, Cantique des Cantiques répare, et je rajouterai répare en partie, une histoire d'amour qui avait mal commencé, qui avait mal tourné. La première des histoires d'amour entre un homme et une femme, celle entre Adam et Ève, tout comme l'ensemble de la création, est atteinte par le péché au moment de la chute. À ce moment-là, finie l'harmonie dans le couple, terminée. Nous lisons au chapitre 3 de la Genèse, « Le désir de la femme se portera vers son mari et qu'il la dominera. » Au verset 11 de notre texte du Cantique des Cantiques, on lit, la Sulamite parle et elle dit, « Je suis à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi. Le désir de l'homme se porte vers la femme et le désir de la femme se porte vers son mari. » On a l'impression dans le Cantique des Cantiques que la relation est rééquilibrée, qu'elle est réparée. Ensuite, ce n'est pas tout. Dans la Genèse, au chapitre 2, nous pouvons lire que l'homme et sa femme étaient tous deux nus, sans éprouver aucune honte. Et plus loin, au chapitre 3 de la Genèse, toujours, on se situe là aussi après la chute, on les voit se cacher, ils cachent leur nudité avec des feuilles de figuier. Et si l'on revient à notre texte dans le Cantique des Cantiques, on a plutôt affaire à un couple qui admire le corps de l'autre, un couple qui est plutôt à l'aise avec son corps. Alors, bien que ce ne soit pas parfait dans le Cantique des Cantiques, on voit qu'il y a une espèce de jeu labyrinthe, les amoureux se poursuivent, ils se cherchent, il y a des moments d'absence. Bien que ce ne soit pas parfait, les conséquences de la chute paraissent éloignées dans le Cantique des Cantiques. Elles paraissent éloignées du couple. Ce n'est pas le paradis, mais on n'en est pas loin. Dieu rappelle et redonne à son peuple le don de l'amour et de la sexualité. Et cette restauration, bien qu'imparfaite, produit beaucoup de joie. Dans son œuvre de restauration, encore partielle, Dieu veut réparer les conséquences du péché sur la relation de couple et la sexualité. Et il guide les couples dans cette restauration. Alors, en ce qui me concerne, ce texte nous apprend à vivre le couple devant Dieu. Il nous invite aussi, je crois, à entretenir avec notre femme, notre mari, une relation dans laquelle les notions de pouvoir, de rôle et d'autorité sont rééquilibrées, réparées. Il nous appelle à les redécouvrir dans leur sens véritable, sans la domination malsaine qui est la conséquence du péché. Ce texte nous invite aussi à nous concentrer, on l'a dit, sur ce qui est beau en elle, notre partenaire, en lui, et puis au-delà de la relation conjugale, je crois qu'il nous invite à apprécier tout ce qui est beau dans ce que Dieu nous donne. Notre passage témoigne aussi d'une grande liberté au sein du couple. Le verset 14 souligne la nature de cette liberté et il nous pousse à nous interroger sur les dimensions éthiques de la sexualité. Les mandragores diffusent leur parfum. À nos portes se trouvent tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Comment interpréter ces quelques versets ? Dans la Bible, les mandragores sont connus et mentionnés pour leurs vertus aphrodisiaques. On voit la Sulamite qui a préparé des fruits nouveaux et des fruits secs. D'abord, l'amour passe par des attentions bienveillantes à l'égard de l'autre. Il recherche l'intérêt de l'autre, il donne à l'autre. Ensuite, les fruits nouveaux et les fruits secs renvoient à l'expression d'un amour qui s'exprime à la fois de manière familière et éprouvée, mais qui veille aussi à rester frais, à se renouveler. Un amour qui explore, qui découvre ce qu'il ne connaît pas encore. Il y a clairement dans le Cantique des Cantiques un air de liberté dans l'exploration des plaisirs. Mais, quoi qu'il en soit, il ne nous parle jamais d'un amour débridé. La liberté chrétienne est précieuse. Elle nous offre une grande marge de manœuvre. Et nous pouvons la vivre avec beaucoup de joie. Mais cette liberté, elle est aussi fragile. Et le Cantique des Cantiques nous rappelle les contours de l'amour tels qu'ils sont fixés par Dieu. Dieu est conscient des effets du mal sur les relations. Il connaît nos penchants, les penchants de l'homme, pour l'excès et sa tendance à se saborder lui-même, à se tirer une balle dans le pied en fixant lui-même ses propres règles, ses propres limites. La sexualité voulue par Dieu, aussi positive et libre qu'elle soit, n'est jamais affranchie de toute limite. Elle est appelée à être vécue dans les larges frontières d'un amour ardent. Cet amour ne se réduit pas à un amour qui prend, à un acte égoïste. Au contraire, cet amour est appelé à être vécu dans le don de soi mutuel et il s'épanouit dans le partage. Cet amour ne se résume pas à une technique ou à la simple recherche de plaisir éphémère. Non, il s'inscrit dans le cadre d'un engagement mutuel, dans le cadre de la fidélité, de la durée, dans le cadre d'une alliance entre un homme et une femme. En ce qui nous concerne, dans notre relation conjugale, tout en étant conscient du cadre dans lequel l'amour est appelé à être vécu, n'ayons pas peur de vivre cette liberté et de l'explorer, de rechercher d'abord l'intérêt de l'autre et de lui manifester notre amour par des attentions et des gestes concrets. Des chercheurs de l'Université d'Édimbourg ont réalisé une étude dans laquelle ils démontrent que les comédies romantiques donnent aux spectateurs une vision tellement biaisée de la relation de couple, tellement idéalisée, que cela finit par nuire au couple finalement. Messieurs, notez bien, c'est un argument important dans vos négociations de films avec madame. On parle d'effet Bovary en référence à l'état d'insatisfaction caractéristique de l'héroïne du roman de Flaubert. Madame de Bovary se construit un idéal à partir de la lecture de romans et le retour à la réalité l'a fait tomber de haut. Le Cantique des Cantiques nous présente une vision idéale du couple et de la sexualité. C'est une réalité positive dans laquelle le peuple de Dieu est invité à rentrer, mais la situation telle qu'elle est décrite n'est pas la relation normale du couple dans un monde qui est marqué par le péché. Et ce n'est pas non plus une fin en soi. Or, il n'est pas nécessaire d'avoir 10 ans de mariage pour savoir que le quotidien du couple est parfois bien loin de l'idylle de Salomon et de la Sulamite qui nous ont décrit dans le Cantique des Cantiques. La baisse des mariages et puis l'augmentation des divorces témoignent de la pression et du défi que représente la vie conjugale. Alors, les couples qui traversent des turbulences, ceux pour qui la vie conjugale est un défi quotidien, mais aussi ceux qui ont échoué dans le couple et en amour, ne doivent pas voir dans ce texte une norme inatteignable. Ils ne doivent pas y voir un idéal qui soulignerait leur déboire. Au contraire, la Bible nous montre un Dieu qui est conscient des défis que représente le couple. Elle nous montre un Dieu qui est concerné, un Dieu qui est engagé aux côtés du couple et qui les conduit dans cette relation et qui leur apprend à vivre le couple. Alors ce matin, c'est vrai, les couples sont à l'honneur, mais le texte s'adresse aussi aux célibataires, je pense. Je pense à celles et ceux qui patientent tant bien que mal et qui se sont peut-être fait une raison. Il s'adresse aussi à celles et ceux qui ont été brisés par l'amour ou par le couple. Il parle aussi à celles et ceux que la sexualité a déçus ou brisés. Il s'adresse aussi à celles et ceux pour qui la sexualité est une lutte. Et il leur dit que Dieu est conscient de leurs difficultés, de leurs blessures et de leurs luttes. Il nous montre un Dieu qui est à l'œuvre, qui est engagé à nos côtés pour nous préserver des effets du mal, et un Dieu qui restaure tout ce que nous avons cassé ou sali. Nous l'avons vu il y a bien longtemps, nous vivions dans le monde dans lequel nous avons tous envie de vivre. L'harmonie régnait entre Dieu et les hommes, entre l'homme et la femme, et nous n'avions pas à nous soucier des conséquences du mal. C'était le temps de l'Éden. Mais en nous détournant de Dieu, les hommes, les femmes et nous-mêmes avons finalement renoncé à ce monde-là. Et nous nous sommes exposés au péché et à ses conséquences. Des conséquences qui sont lourdes, qui impactent nos relations et plus encore notre condition, et qui font de nous des pécheurs qui sont promis à la mort finalement. Et pourtant, Dieu a promis de réparer ce monde. Il s'est approché d'un peuple au travers duquel il apporterait le salut au monde. Et dans ce pas de Dieu vers l'homme, on retrouve déjà les prémices de la restauration visée par Dieu. Dieu souhaite restaurer sa relation avec les hommes. Il leur donne sa loi, au travers de laquelle il les guide, et les éloigne du mal et de ses effets. Par des poèmes, dont le Cantique des Cantiques, il partage avec eux sa volonté et son projet de les voir épanouis dans un monde sans péché. Et c'est au travers de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ que Dieu accomplit parfaitement sa promesse de salut pour le monde. C'est en Christ qu'il restaure la relation entre Dieu et les hommes. C'est Christ qui, par amour, a vaincu le mal à la croix. Et c'est lui, Christ, encore une fois, qui reviendra, qui terminera ce qu'il a déjà commencé en renouvelant sa création. Tout ce qui dysfonctionne dans nos vies, tout ce qui dysfonctionne dans le monde, Dieu le restaurera, Christ le restaurera. Et en disant cela, on comprend, et on ne peut pas en vouloir aux rabbins, aux pères de l'Église qui voyaient dans le Cantique des Cantiques une image de l'amour de Dieu pour son peuple, une image de l'amour de Christ pour son Église. Alors, pour conclure, je dirais, dans nos relations de couple, laissons-nous interpeller par le Cantique des Cantiques qui nous invite à célébrer l'amour, à nous réjouir de ce qu'il y a de beau en l'autre, à lui exprimer notre amour en parole et en action prévenante, et tout en restant dans les larges limites de l'amour qui passe par le don mutuel et le partage, explorant et découvrant cette liberté qui nous est offerte. Et dans les difficultés et les défis qui touchent à nos relations et à notre sexualité, appuyons-nous sur Dieu qui restaure déjà nos vies, en partie dans ce monde, toujours marqué par la réalité du mal, et qui les restaurera pleinement lors de son retour. Amen.